avril, 25 04 24. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, l'enquête sur le lynchage de Philippe Kopmann à Grande-Synthe. RTL a eu accès aux auditions des trois mineurs mis en examen.
Trois jeunes de 14 et 15 ans qui se sont peut-être trompés de cible. L'autre grand titre ce matin, c'est cette mesure radicale pour lutter contre le surtourisme. 5 euros pour entrer dans Venise, une première mondiale. Mais avant de photographier les gondoles, encore faut-il avoir un avion. Le préavis de grève est levé, mais les perturbations toujours bien réelles. Ce matin, on sera à Orly, où 3 vols sur 4 sont annulés.
Et puis les plus que centenaires sont de plus en plus nombreux. Une nouvelle classe d'âge est même en train de faire son apparition, les super centenaires, ceux qui dépassent les 110 ans. C'est ce que révèle l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Alors comment l'expliquer? Quels sont les secrets pour vivre si longtemps? Et surtout, peut-on espérer aller au-delà? 125, 120 ans par exemple, on en parle à 7h40 avec le professeur Bernard Saplenière.
RTL Matin.
Le troisième mineur soupçonné d'être impliqué dans la mort de Philippe Kopmann a passé la nuit en prison. RTL vous l'a révélé dès hier, ce garçon de 15 ans a été présenté à un juge et mis en examen pour meurtre avec guet-apens, comme les deux autres suspects. Et Planar Adenovic, pour RTL, vous avez eu accès à leurs auditions. Les trois hommes ont eu une attitude très déroutante et on découvre que la mort de Philippe Kopmann relève peut-être d'une simple méprise.
En garde à vue, ce qui est frappant, c'est d'abord l'absence de toute empathie à l'égard de la victime. Philippe Kopmann, pour qui les suspects ne parviennent à avoir aucun mot. Ensuite, c'est la difficulté avec laquelle les trois jeunes s'expriment. Il faudra toute la finesse des hommes de la police judiciaire de Lille pour faire reconnaître au troisième suspect sa responsabilité. Et encore, ce sont des aveux a minima. Il dit qu'il était présent, c'est tout, et des caméras de vidéosurveillance du secteur l'ont filmé de toute manière. Par ailleurs, les adolescents prétendent s'être peut-être trompés de cible. Ils ont, c'est ce qu'ils disent, appelé le numéro de l'homme qui a répondu à leur fausse annonce, mais Philippe Kopmann n'a pas pu décrocher, étant déjà en ligne. Et d'autres personnes se sont présentées aussi aux policiers affirmant avoir rendez-vous au même endroit, au même moment, via le même site de rencontre. Des éléments qui restent encore à vérifier à ce stade.
Et l'enquête, elle, continue, Planar.
Alors, la téléphonie est en train d'être étudiée. Oui, les téléphones des trois mis en examen ont été saisis. La police judiciaire de Lille va aussi déterminer si les trois jeunes ont ou non commis d'autres agressions similaires et s'ils se sont vraiment fait passer pour une mineure pour tendre leur guet-apens. À ce stade, c'est juste leur version.
Planar Adenovic du service police-justice de RTL. Hier, plusieurs centaines de personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Kopmann à Grande-Synthe. RTL vous l'a révélé hier, Kenji Girac a pu être entendu par les enquêteurs. Pendant plus de 3 heures, le chanteur a maintenu ses propos, ceux d'un accident avec un coup de feu parti tout seul en manipulant son arme, alors que sa compagne et sa fille de 3 ans étaient aussi dans sa caravane. Selon l'agence France Presse, citant des sources proches du dossier, le chanteur avait beaucoup bu. La procureure donnera une conférence de presse cet après-midi.
Il est 7h03, ce sera tout le paradoxe aujourd'hui. Les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève, mais ils auront finalement peu de travail.
Car les milliers de vols annulés n'ont pas pu être reprogrammés, car difficile de modifier à la dernière minute un dispositif de crise. Et le plus dur, c'est à Orly, où l'on vous retrouve, Pierre Bazin. 3 avions sur 4 restent supprimés ce matin.
Oui, et conséquence ici, les halls de départ sont assez vides parce que les voyageurs qui ont vu leur vol annulé ont normalement reçu une notification, sauf que certaines compagnies n'ont rien envoyé. Alors devant les écrans d'affichage, tout le monde se presse. Dans les mains, de grosses valises et dans les yeux du désespoir, ce couple de retraités regarde les écrans en vain.
Votre vol ?
Je le vois pas.
Ben, on le voit pas.
Normalement, c'était 10h05 pour les Canaries et il n'y est pas a priori, donc...
Et vous n'avez pas reçu de mail ou de notification d'annulation ?
Bah non.
Vous êtes sceptique ?
Oui.
Oui, bah déjà peu, depuis hier, mais comme on n'avait pas eu de nouvelles, bon, on s'est dit on a peut-être eu de chance, et on vient d'Orléans, donc voilà.
Il n'y a pas de vol avant au moins dimanche ou lundi pour aller là-bas, donc on devait partir une semaine, donc on ne va pas partir que pour 3-4 jours. Quoi.
Et là, le sentiment pour l'instant ?
Bah...
Un peu dégoûté.
Dégoûté, madame ?
Oui.
Et ce matin, ils sont nombreux dans ce cas-là. Seule solution, se tourner vers le guichet de leur compagnie. Et autant vous dire, Hortense, que c'est presque peine perdue, aujourd'hui en tout cas.
Pierre Bazin, direct d'Orly pour RTL. Et la moitié des vols également annulés à Roissy, 65% à Nice et Marseille et 60% à Toulouse. Alors si vous arrivez quand même à avoir votre vol et que vous allez en Italie, oui, à Venise, eh bien retenez ce mot, cinque, ça veut dire 5. 5 euros, c'est ce qu'il faudra payer dès aujourd'hui pour pouvoir y entrer. Le but, c'est de lutter contre le surtourisme. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL en Italie. C'est une première mondiale à l'échelle d'une ville.
Good morning, I am Luigi Brugnaro.
C'est à grands coups de communication que Venise a préparé cette expérimentation inédite du ticket payant à travers des vidéos utilisant l'intelligence artificielle pour générer des traductions. C'est donc dans un anglais parfait que Luigi Brugnaro, le maire de la ville, a expliqué les enjeux de cette nouveauté.
C'est une expérience que nous faisons avec beaucoup d'humilité. Nous nous excusons pour les problèmes qu'elle pourrait engendrer, les retards, mais nous le faisons précisément parce que c'est une ville qui mérite d'être protégée. Elle est au patrimoine mondial et cela implique de faire des efforts.
Dès ce jeudi, les touristes devront donc s'acquitter de 5 euros pour visiter la ville. Pour cela, il faut avoir au moins 14 ans et y passer seulement la journée. Pas de portique pour les billets, mais un QR code généré sur votre téléphone une fois l'inscription faite sur le site de la commune. L'expérience va se répéter durant les ponts du mois de mai et tous les week-ends jusqu'au 14 juillet. Personne ne sait encore si cette mesure sera efficace pour préserver Venise du surtourisme. 30 millions de visiteurs se pressent chaque année pour admirer la Sérénissime.
Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. Alors chez nous en France, comment s'organise cette lutte contre le surtourisme? Réponse à 8h10.
Ce sera notre RTL vous explique du jour. Il était déjà pointé du doigt pour la qualité de ses eaux. Voilà ce matin un nouveau coup dur pour Nestlé.
Le groupe a dû détruire par précaution une partie de sa production de Perrier après de fortes pluies sur un captage près de Nîmes. Et ça à cause d'une contamination à une bactérie de type E. coli à Gatlandais.
Oui, depuis la semaine dernière, tout est à l'arrêt dans cette source d'eau qui est située près de Nîmes. Nestlé ne pourra reprendre la production de ses bouteilles que lorsque les autorités auront fini de mener leur contrôle pour s'assurer de la qualité de l'eau. Selon la préfecture, justement, cette eau, elle serait contaminée depuis le 10 mars, jour de la violente tempête qui a frappé la région et fait déborder les cours d'eau. Lors d'un contrôle qualité, plusieurs bactéries, dont la bactérie E. coli, ont été trouvées dans la source. Par précaution, nous indique le groupe, il a aussi fallu détruire des lots prêts à l'envoi en magasin. Une quarantaine de millions de bouteilles, estiment les syndicats. Un chiffre non confirmé par Nestlé qui indique que toutes les bouteilles de Perrier actuellement dans nos rayons ne présentent aucun risque sanitaire. D'ailleurs, il n'y a eu aucun rappel de produit.
Agathe Landais, spécialiste santé de RTL. Emmanuel Macron en mode VRP de l'Europe ce matin, au lendemain de la fin de la dernière session du Parlement européen avant les européennes du 9 juin. Le président prononce à 11h un discours à la Sorbonne, 7 ans après une première allocution sur le sujet dans l'université. Les Français, toujours généreux malgré l'inflation, plus d'un sur deux, 51%, ont fait un don en 2023. C'est un point de plus sur un an, résultat du dernier baromètre de la solidarité réalisé par Ipsos pour la Fondation Apprenti d'Auteuil, que RTL vous dévoile ce matin.
Un rassemblement pro-palestinien est organisé dans la soirée à Sciences Po Paris.
Un mois et demi après des incidents pendant l'occupation d'un amphithéâtre, ce rassemblement a eu lieu hier soir. Rassemblement à Paris, quant aux États-Unis, c'est désormais tout un village de tentes d'activistes pro-Palestine qui campent sur la pelouse de l'université Columbia depuis 10 jours. La faculté de New York, point de départ d'une vague de colère d'étudiants qui s'étend désormais dans tout le pays. Reportage dans le journal de 8h.
Le foot et Paris avaient peut-être sorti le champagne hier soir. Il va falloir encore attendre un peu pour le 12e titre de champion de France.
Ou plutôt samedi, si victoire face au Havre, car si le PSG s'est imposé 4-1 à Lorient pour un match en retard de la 29e journée. Dans la foulée, son dauphin, Monaco, a retardé le sacre en gagnant 1-0 contre Lille. Du côté de l'OM, quand ça veut pas, ça veut pas. En championnat, en tout cas, Marseille réduit à 10, a fait match nul à Nice de partout. Et puis elle a fait son grand retour sur scène dans ce qu'on pourrait appeler un moment de grâce. Clara Luciani a participé hier soir à un concert hommage à Françoise Hardy en ouverture du Printemps de Bourges. Et pour l'occasion, la jeune maman a repris l'un des plus beaux titres de la chanteuse de 80 ans, Message personnel. Mais cette fois en duo avec Zao de Sagazan, quadruple vainqueur, on le rappelle, de trophée aux dernières victoires de la musique. Prestation magique captée par Steven Bellery. Écoutez.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas.
Viens me retrouver.
message personnel, qui est d'ailleurs le titre de ce concert hommage. Un texte qu'avait composé, on le rappelle, Michel Berger.
Pense à moi. Pense à moi.
Il faut quand même parler des courses parce qu'elles ont lieu à Longchamp.
Un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 7, le 11, le 6, le 16, le 4, le 9, l'outsider de RTL, le 6.
C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h10.
Et dans un tout petit instant, un coup de gueule. Pour la première fois en 20 ans, l'ancien footballeur Yoann Lemaire a été obligé de quitter une classe dans laquelle il faisait de la prévention contre l'homophobie. Il est avec nous dans un instant. Alba Ventura, vous nous parlez-vous d'Emmanuel Macron qui parle Europe ce matin?
Est-ce qu'un grand discours sur l'Europe sera suffisant pour rattraper le Rassemblement National? C'est la question.
À tout de suite.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL.
C'est si bon.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snaqué.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf.
C'est si bon.
Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Et oui.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€, les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€, la boîte vend du sol, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc un coup de gueule. Bonjour Yoann Lemaire. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Yoann, vous m'entendez? Président de l'association Foot Ensemble, on va régler ça en régie, qui lutte contre l'homophobie dans le sport. Est-ce qu'on est en ligne avec Yoann Lemaire? Vous m'entendez?
Oui, je vous entends, oui. Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur RTL et merci de prendre la parole ce matin. Je le disais, vous présidez et vous avez créé d'ailleurs l'association Foot Ensemble, hein, qui lutte contre l'homophobie dans le sport et ailleurs. Vous avez été l'un des premiers footballeurs à avoir révélé votre homosexualité. C'était en 2004, il y a donc 20 ans. Et depuis, vous sillonnez la France pour sensibiliser les plus jeunes, à la fois dans les établissements scolaires ou les clubs de foot. Pour la première fois cette semaine, Yoann Lemaire, vous avez dû quitter une salle de classe en pleine intervention. Que s'est-il passé?
Bah écoutez, c'est de plus en plus compliqué, on va pas se mentir. On a des jeunes qui sont de plus en plus agressifs quand on parle d'un sujet clivant, qui est l'homosexualité, hein, quand on leur demande ce qu'ils en pensent. Vous feriez quoi s'il y avait un homosexuel ou une homosexuelle dans la salle? Enfin voilà, je leur pose des questions basiques. C'est quoi l'homophobie? C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi une discrimination? Puis là, le ton est monté, alors beaucoup sur les religions. Systématiquement maintenant on revient sur les religions, on vous explique que c'est interdit, que c'est pas quelque chose de naturel, c'est contre nature, c'est interdit vraiment, hein. Ils insistent sur le mot interdit.
Vous dites les religions, les religions, Yoann Lemaire.
Oui. Les religions, parce que quelles qu'elles soient, hein, il suffit que là, en l'occurrence, c'était beaucoup sur la Bible. On m'a expliqué que la Bible, c'était Adam et Ève, un homme, une femme. Dieu avait interdit l'homosexualité parce que c'était un péché. Donc, avec beaucoup d'agressivité. Habituellement, on en parle beaucoup, surtout dans le foot. Maintenant, il faut presque être théologien pour parler de ce sujet, parce que c'est l'homosexualité. Alors, vous parlez aux jeunes d'environnement, on sait pas très clivant, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin, il y a des discussions. L'homosexualité, ça va chercher l'intimité. pensée, ça fait du dégoût, de la peur, voire de la haine. Et là, en l'occurrence, ben, quelques jeunes étaient à dépasser les limites, des propos clairement homophobes, bon, voilà, on va pas se mentir, où il y avait beaucoup de haine. Et puis ça a passé un cap où j'ai entendu des insultes à mon égard avec beaucoup d'agressivité. Alors j'ai préféré partir parce que bon, ça sert plus à rien. Il y a un moment où on dépasse la limite, on est bénévole, on fait de la route, on dort à l'hôtel, on prend une journée de congé au travail pour aller essayer de parler d'homosexualité et d'homophobie. Il faut quand même penser qu'il y a certainement des jeunes homos dans cette classe, dans ces classes, dans ces clubs de foot. Eh ben, je les plains.
Vous parlez, Johan Lemaire d'Aisne, d'agressivité, et ça fait des années, je le disais, hein, que vous sillonnez comme ça la France, que vous faites ce genre de conférences, de sensibilisation, ça ne vous était jamais arrivé. Comment vous expliquez qu'on en soit là aujourd'hui, on est en 2024, ce que vous nous racontez paraît dingue, hein, en studio, on a tous levé les yeux au ciel.
Ben, vous avez aussi des grandes avancées chez des jeunes, aussi chez des professeurs, vous avez aussi des gamins qui sont extraordinaires, mais il y a une minorité agissante qui est de plus en plus agissante, et puis il me semble que c'est une minorité qui grandit, où ils veulent pas entendre parler de ce sujet. Alors il y a plein d'arguments, il y a celui-là des traditions, des religions, un manque d'éducation, de leur culture, ou alors ils en voient trop à la télé ou sur les réseaux sociaux, donc ça les énerve, ils trouvent ça énervant, dégueulasse, écœurant, vous nous saoulez avec vos conneries, avec votre gay pride, etc. Donc il y a toujours un moyen d'être agressif pour parler d'un sujet qui les gêne eux-mêmes, en fait. Ça les dégoûte en quelque sorte. J'ai beaucoup de jeunes qui me disent ça me dégoûte et c'est interdit. Voilà, c'est interdit selon eux. Donc il y a un moment, je suis assez inquiet parce que une fois de plus, je pense à des jeunes qui peuvent faire partie de ce lot, qui sont eux-mêmes homosexuels. Eh bien, c'est compliqué. Hein. Il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de gamins qui en souffrent. Il y a beaucoup de suicides. Il faut savoir le dire. Beaucoup de gamins qui arrêtent, que ce soit le sport ou l'école, qu'ils ont des problèmes parce qu'ils sont pas dans un environnement bienveillant. C'est un sujet sérieux. Il faut savoir briser le tabou et puis de l'autorité. Quand ça dérape comme ça, si les jeunes n'ont rien derrière, ben, c'est un échec complet.
Vous dites je suis très inquiet, en colère aussi d'un mot.
Ah oui, en colère parce qu'il y a plus de, il y a même pas de respect où des jeunes peuvent simplement dire comme ça m'arrive souvent hein, depuis des années. Bon, moi j'aime pas, ça me dérange, mais j'irai pas agresser un homosexuel, ça me viendrait pas l'idée. Ou alors de dire moi en tout cas c'est pas possible que je sois homo, c'est un choix d'après eux hein, et souvent ils me disent que c'est un choix, donc je comprends pas leur choix alors que c'est pas du tout un choix. On essaye de revenir sur le minimum, mais là quand vous avez des gamins qui vraiment parlent fort, qui vous regardent avec beaucoup d'agressivité et puis qui font vraiment allusion de plus en plus à la religion, c'est loin d'être gagné. On est en 2024, on fait un sacré bond en arrière. Et ça, je l'avais remarqué dans le football professionnel, dans les centres de formation, depuis plusieurs années. On en parle souvent à la Ligue de foot professionnelle. J'ai fait faites attention, on parle que de religion. Et l'homosexualité, quand on parle de ce sujet, on détecte rapidement, je vous dis, leur religion, leur tradition, leur culture, leur haine, leur altérité pour certains. Et je remarque que dans les lycées, c'est la même chose.
Merci beaucoup, Johan Lemaire, pour ce témoignage ce matin. Un bond en arrière, voilà ce que vous nous dites. Hein. Sur RTL, je rappelle le nom de votre association, Foot Ensemble.
Il est 7h18.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée dans le grand amphi de la Sorbonne pour prononcer un discours sur l'Europe. Un discours qui, dit-on, va marquer l'entrée en campagne du président, donc à 7 semaines des élections européennes. Alba, est-ce qu'Emmanuel Macron est le mieux placé pour lancer cette campagne ?
Bon, sur le papier, oui, indéniablement. S'il y a un homme politique qui a chevillé au corps la défense de l'Europe, c'est bien lui. Et ce discours qu'il va prononcer tout à l'heure fait écho à son tout premier discours sur l'Europe. C'était quelques mois après son accession au pouvoir en septembre 2019. Au même endroit d'ailleurs, à la Sorbonne. Alors 7 ans se sont écoulés, 7 ans jalonnés de grandes crises. Il y a eu le Covid, la crise migratoire, l'invasion de l'Ukraine, l'inflation. Et donc le président Macron, on peut le dire, est parfaitement dans son rôle en venant parler d'Europe. Maintenant, comme vous le disiez, on est à l'aube d'une échéance électorale, les européennes, c'est le 9 juin prochain. Et sur le plan politique, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'Emmanuel Macron, cela fait 7 ans qu'il est au pouvoir et que le pouvoir, ça use. Et dans une élection même européenne, qui arrive là à mi-mandat, c'est le bilan qui prend le pas. Et le Rassemblement National, qui est largement en tête, l'a bien compris. Jordan Bardella veut faire de ce scrutin un référendum anti-Macron. Et donc, tout y passe, hein, le dérapage des déficits, les violences dans la société, l'école, la santé, le pouvoir d'achat. Donc, le président peut bien vouloir parler d'Europe, montrer ce qui marche, ou montrer comment l'Europe se défend. Tiens, on a eu l'exemple avec le recul de TikTok, vous savez, le réseau social chinois et sa nouvelle version très addictive pour les jeunes. Emmanuel Macron aura beau rappeler qu'il est monté au créneau pour réviser la PAC en faveur des agriculteurs, il aura beau rappeler qu'il a répondu présent pour voter les aides en faveur de l'Ukraine, contrairement aux députés RN, il n'échappera pas à sa propre politique. N'oubliez pas, Yves, que c'est la première fois que les électeurs vont s'exprimer dans les urnes après la réforme des retraites.
Et bien justement, Alba, plus de 10 points séparent en ce moment la liste Rassemblement National de la liste Renaissance qui est soutenue par le président Macron. Ça se rattrape.
C'est beaucoup, 10 points.
Oui.
Même si on ne sait rien de ce que sera la mobilisation, et vous savez que beaucoup de gens ne savent pas encore qu'il y a une élection le 9 juin prochain, donc on le rappelle, c'est le 9 juin.
Voilà.
Mais 10 points, c'est beaucoup. Rien à voir avec la précédente élection 2019. Le Rassemblement National avait remporté l'élection européenne, mais avec un point de différence seulement. Et par ailleurs, il y a la liste de gauche de Raphaël Glucksmann qui fait une percée, c'est-à-dire qu'il capte lui aussi des électeurs macronistes. Et puis la mauvaise nouvelle, Yves, pour Emmanuel Macron, c'est le vote des plus de 65 ans, des gens qui traditionnellement se mobilisaient pour les élections, qui jusque-là refusaient les extrêmes et qui se tournent de plus en plus vers Jordan Bardella. Donc il va falloir plus qu'un discours sur l'Europe pour rassurer cet électorat qui a majoritairement voté Macron à la dernière présidentielle.
Le 9 juin, 09-06-24.
Voilà.
Les chiffres ne mentent pas, c'est une de nos obsessions. Sur l'antenne des RTL, merci beaucoup Alba Ventura, à demain.
Et il est 7h21, dans un tout petit instant, un coup d'État sans armes. La révolution des œillets au Portugal, c'était il y a 50 ans, jour pour jour. Laurent Dutz nous explique tout ça, à tout de suite.
7h-9h, RTL Matin.
Mais t'as encore inondé la salle de bain, tu peux pas faire attention.
Bah oui, mais avec ce vieux rideau de douche, on peut pas faire autrement.
Bah on va quand même pas installer une cabine de douche.
Ah bah si, pourquoi pas.
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec la cabine de douche Square 80 par 80 cm, très tendance en coloris noir et gris à 199€. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt.
Wow.
Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Dès demain matin, 7h en quantité limitée. Également disponible en drive sur bricodépôt.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de deux avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de deux. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justesse, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le Parc National de Forêt, le Parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjador.com.
RTL, entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Amandine, bonjour Yves.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un célèbre coup d'État au Portugal dont nous fêtons aujourd'hui les 50 ans, la révolution des œillets.
Oui, alors vous savez qu'en France, on a coutume de dire que tout finit par des chansons. Eh bien, au Portugal, avec la révolution des œillets, tout a commencé par une chanson. Ah. Nous sommes le 25 avril 1974 et à la radio, on entend une mélodie, Grandola Vila Morena, de José Afonso. Cette chanson, enregistrée 3 ans plus tôt en France par des exilés portugais, est un hymne à la liberté. Et c'est même le signal qu'attendaient des militaires rebelles pour se révolter contre le régime de Salazar.
Alors justement, avant de nous en dire plus sur cette révolte, qui était ce fameux Salazar ?
Le docteur Salazar, on se croirait dans Tintin, a gouverné le Portugal d'une main de fer pendant 36 ans, de 1932 à 1968. Sa longévité en fait la figure emblématique de cette dictature qui s'est imposée en renversant la première république du Portugal en 1926. Mais à partir des années 1950, le régime de Salazar est à l'image du dictateur, malade et vieillissant. Le Portugal est à la traîne de l'Europe occidentale en matière de développement économique et en pleine période de décolonisation, le pays essaie à tout prix de conserver les derniers vestiges de son empire colonial en Afrique ou en Asie. Mais la société portugaise n'en peut plus et la révolte gronde. Les idées marxistes progressent. Finalement, Salazar quitte le pouvoir en 1968 pour raisons de santé et son successeur Marcelo Caetano poursuit sa politique en essayant toutefois de calmer le jeu. Mais c'est trop tard.
Et nous voilà donc le 25 avril 1974, de jeunes officiers de l'armée décident de passer à l'action.
Oui, le coup d'État est l'œuvre de jeunes capitaines, les meneurs du MFA, le mouvement des forces armées, mais aussi de celui de certains généraux à l'ancienne. Ces derniers voudraient surtout sortir de la crise coloniale, mais ils vont être vite dépassés par les événements, car le MFA est dominé par l'extrême gauche, qui souhaite faire la révolution dans tous les domaines de la société.
Pourquoi l'appelle-t-on la révolution des œillets ?
Car lors de cette journée historique, une vendeuse de fleurs du Rocio, vous savez, la grande avenue de Lisbonne, a offert aux soldats des fleurs de saison, des œillets rouges. Et en signe de ralliement, les militaires ont eu l'idée de placer la fleur dans le canon de leur arme. Et c'est littéralement la fleur au fusil que le coup d'État s'est déroulé, car il n'y a eu aucune effusion de sang ni coup de feu tiré. Le lendemain, le journal Le Monde a sorti en première page « La révolution des œillets triomphe au Portugal », un nom tout trouvé pour faire entrer cette journée dans l'histoire.
Merci Laurent. Demain, vous nous parlez de quoi ?
Eh bien, demain, on va parler d'un événement qui a donné à Picasso une de ses œuvres les plus connues, le bombardement de la ville espagnole de Guernica.
À demain.
À demain.
7h25 sur RTL, dans 5 minutes, le journal. À 8h20, je vous le rappelle, c'est Omar Sy qui sera ici même en studio. Et puis, dans quelques minutes, Louis Baudin. Bon, alors vous, oui. Franchement...
Je commence à raser les murs.
Carton
rouge.
Il fait encore froid ce matin.
On a même eu des gelées, là, pas très loin de Paris, là, du côté de Chartres, par exemple.
Température quoi, du mois de mars ?
Oui, c'est ça, on est encore au mois de mars, là.
Les meilleurs moments des grosses têtes, avant de les retrouver de 15h30 à 18h sur RTL pour une émission inédite avec Laurent Ruquier. Et ce matin, un bon vieux concours de fake news.
On sait enfin comment Kenji Girac s'est blessé tout seul avec un revolver. Il jouait à la roulotte russe.
Chantal Latsou.
Couvre-feu pour les mineurs. Hier, à 23h, Gabriel Attal n'a pas pu sortir de Matignon pour rentrer chez lui.
Yohann Rioux.
Affaire Kenji Girac. Le chanteur, toujours à l'hôpital, s'est blessé grièvement hier quand l'infirmière lui a apporté un pistolet pour qu'il fasse pipi.
Ariel Dombal pour terminer.
Me too à l'hôpital. Un chameau a révélé hier avoir été violé dans un désert médical.
Les grosses têtes que vous retrouvez bien sûr dès 15h30. Demain, les grosses têtes seront à Montluçon. Émission exceptionnelle, enregistrée à 19h au Musée des Musiques Populaires pour une diffusion lundi. Et à cette occasion, RTL vous offre 15 000 euros cash, super valise. Le principe, vous le connaissez. Laurent Ruquier vous appelle, vous décrochez, vous remportez les 15 000 euros. Il faut quand même s'inscrire. Vous envoyez par SMS le mot valise au 74 900. Vous avez jusqu'à demain. Il est 7h27.
Quatre jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
Les pergolas, on les attend pour l'instant parce que...
On n'en a pas besoin.
C'est instable, c'est humide et c'est froid.
Et c'est nuageux. C'est vrai que les températures sont encore très basses ce matin. On est souvent entre 5 et 6, 7 degrés. J'ai même un peu moins là du côté dans l'Orne, dans la Haute-Marne. On frôle le 0 degré, moins 1 à Toussus-le-Noble. On a une petite éclaircie là du côté des Yvelines. Donc on a eu quelques températures basses, 0 à Chartres ou encore du côté de Trappes.
Oui.
Et puis si je continue avec les températures cet après-midi, alors ça remontera un petit peu quand même. même entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord. C'est 2 degrés de plus qu'hier, donc c'est pas encore dans les valeurs des saisons, mais c'est moins pire. Bon, et puis 14 à 18 degrés dans la moitié sud, tout ça avec un ciel encore très nuageux. Là, avec le jour qui se lève, j'ai les images satellites sous les yeux, c'est déprimant. Mais il y a des nuages partout encore, quelques pluies là dans le sud-ouest. Il y en a sur la Bretagne, il y en a près des frontières de l'Est. Et cet après-midi, c'est surtout dans le sud-ouest que les précipitations seront les plus fréquentes. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas ailleurs, ce sera plus dispersé, mais entre les Pyrénées et l'Auvergne, là, il y aura encore des averses, de la neige, des 1600 mètres sur les Pyrénées. Puis un ciel un peu plus dégagé encore qu'il y a un petit voile nuageux près de la Méditerranée, avec encore un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 70 km/h.
Et tout cela est installé.
Aïe, 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 oui, ça continue, parce que demain, bah, c'est pareil, c'est nuageux, c'est pluvieux, plus de pluie qu'aujourd'hui. Pour le week-end, on aura une petite accalmie samedi dans les régions de l'Est. Dans l'Ouest, arrivera une vraie perturbation avec des nuages, de la pluie, du vent, hein, je vous le confirme.
Une vraie.
Dimanche.
Ouais. Les autres étaient un peu
faibles. Oui, les autres étaient un peu faibles. Hein, donc celle-là sera beaucoup plus active. Ça arrivera dans l'Est dimanche. Et puis le pire, c'est que la semaine prochaine, ça continue. Ça reste dépressionnaire, quoi. Donc ça veut dire nuages, pluie au programme. Bon, les températures seront à peu près de saison. Voilà, c'est tout ce que j'ai en magasin.
Merci infiniment, Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, 7h30.
7h, 9h,
RTL Matin,
avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. On l'apprend à l'instant, les ailes du mythique Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit à Paris sur les images filmées par un internaute. Il fait encore nuit lorsqu'il découvre ses grandes ailes légèrement tordues, écroulées devant l'entrée du club qui donne sur la rue. Il est effaré.
C'est quoi ce délire?
Waouh! Le Moulin Rouge, il est tombé?
Le Moulin Rouge, il est tombé du Moulin Rouge? Le Moulin Rouge, il est tombé du Moulin Rouge? Le Moulin Rouge, il est tombé!
C'est quoi ce délire?
Vous entendez la surprise de Gustave sur Twitter. C'est l'un des premiers passants à avoir découvert la scène. On ignore encore les causes de cet incident. Un périmètre de sécurité a été mis en place devant le Moulin Rouge.
On en vient à une histoire de solidarité, comme seuls les auditeurs d'RTL en ont le secret.
On vous le disait hier, 40% des Français ont au moins un crédit à la consommation en cours, souvent essoré par les dépenses du quotidien. Christelle, une auditrice, n'arrive plus à rembourser ses crédits. Elle a appelé Éric Brunet dans Les Auditeurs ont la parole, et voilà qu'un élan de générosité incroyable s'est emparé de l'antenne d'RTL. Margot Le Fur.
C'est une femme désespérée qui contacte Éric Brunet. Christelle a 53 ans. Depuis 2014, elle est surendettée.
J'ai fait plusieurs crédits de la consommation pour les études de ma fille, pour des soins dentaires. Je suis au adulte handicapé, invalide. Et j'ai 47 000 euros de dette. Ma maison ne vaut même pas 20 000 euros. Ouais, donc ils vont me prendre ma maison en espérant que le juge veuille bien effacer la dette restante. Donc je vais, il faut le dire, me retrouver à la rue.
Le témoignage touche les auditeurs. Immédiatement, une trentaine de personnes proposent de faire un don. Lucien et Jean, des anciens chefs d'entreprise, s'engagent à racheter la dette.
Je me proposais de l'aider en reprenant les 20 000 euros.
Je mets 27 000, comme ça fera les 47 000 qui manquent.
Bouleversé, Jean n'a pas hésité une seconde.
Je me suis dit, comme j'ai les moyens, il faut vraiment aider cette personne. Là, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, était nécessaire.
Dès ce matin, les chèques seront envoyés. Christelle ne réalise toujours pas.
Je suis très émue de voir qu'il y a encore des gens qui ont du cœur. Ça me touche vraiment.
Elle contacte le tribunal aujourd'hui et espère régler sa situation au plus vite.
Un récit signé Margot Le Fur, on en est très fiers à RTL de ce genre de miracle. La générosité des Français en chiffres, tiens, RTL vous le révèle, un Français sur deux a effectué un don l'an dernier, 371 euros en moyenne d'après le baromètre de la solidarité réalisé par Ipsos pour la fondation Apprenti d'Auteuil. Les plus généreux, figurez-vous, sont les moins de 35 ans.
Un adolescent de 16 ans est donc soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les JO.
Arrêté en Haute-Savoie, il disait vouloir frapper notamment le quartier de la Défense à Paris. Sophie Neumayer, il est interrogé en ce moment par les enquêteurs du parquet antiterroriste.
Oui, dans des messages postés sur les réseaux sociaux ou encore sur la messagerie cryptée Telegram, le jeune Savoyard a exprimé sa volonté de fabriquer une ceinture explosive et de mourir en martyr. Il évoque plusieurs cibles, notamment en effet le fait de frapper le quartier de la Défense pendant les Jeux Olympiques, des propos pris au sérieux par le parquet national antiterroriste qui a ouvert hier une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels, même si pour le moment les enquêteurs invitent à la prudence. Ils cherchent encore à vérifier la réalité et le niveau d'aboutissement de ce projet? S'agit-il de propos fantaisistes tenus par un adolescent ou embrasse-t-il vraiment l'idéologie terroriste islamiste? Lors d'une perquisition chez ses parents, aucune arme et aucun explosif n'a été trouvé, mais plusieurs documents manuscrits ont été saisis. L'un d'eux ressemble à une déclaration d'allégeance au groupe État islamique. Il est en cours d'analyse. Son interrogatoire par les services de renseignement doit se poursuivre aujourd'hui.
Sophie Neumayer pour RTL. À deux mois des élections européennes, la liste de gauche talonne Renaissance. 13% des intentions de vote pour PS Place Publique contre 16% pour le camp présidentiel. D'après notre baromètre hebdomadaire Harris Interactive Toluna pour RTL, Raphaël Glucksmann a rassemblé 600 personnes hier en meeting à Strasbourg. Emmanuel Macron sera lui à la Sorbonne ce matin pour un discours sur l'Europe. Une dizaine de tentes installées à Sciences Po Paris par le comité de soutien à la Palestine, un mois et demi après l'occupation d'un amphithéâtre qui avait fait polémique pour des propos jugés antisémites contre une étudiante, rassemblement qui s'est déroulé dans le calme.
Israël qui continue à bombarder Gaza et qui lance dans le même temps une action offensive sur le sud du Liban.
L'armée indique que son aviation a frappé 40 cibles du Hezbollah libanais, le mouvement chiite, allié de l'Iran et du Hamas palestinien, Gauthier Delambugard.
Oui, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrent les impacts des missiles israéliens, les explosions causées par les bombardements autour de plusieurs villes du sud Liban. Près de 40 cibles frappées par les avions et l'artillerie en quelques heures. La moitié des commandants du Hezbollah présents dans le secteur ont été éliminés, assure Tzahal. Des dizaines d'infrastructures visées, des centres de contrôle, des dépôts de munitions, des installations de stockage d'armes du mouvement pro-iranien ont été détruits, selon l'armée israélienne. Dans une vidéo, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, se félicite de cette opération.
L'action offensive que nous menons dans tout le sud du Liban est très efficace. Nous déployons des troupes supplémentaires à la frontière afin d'assurer la sécurité des habitants du nord d'Israël.
Des convois militaires convergent en ce moment vers la frontière, racontent plusieurs témoins. Les échanges de tirs sont quotidiens et de plus en plus intenses depuis le 7 octobre entre Israël et le Hezbollah, soutenu et financé par l'Iran.
Les précisions de Gauthier Delambugard. Un mot de football pour terminer. Le sacre du PSG retardé en Ligue 1 hier malgré sa victoire sur Lorient 4-1, empêché de décrocher son titre en raison de la victoire de Monaco 1-0 face à Lille. Notez que l'OM a concédé le nul face à Nice de partout.
Merci beaucoup Aude Vernucci, on vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure.
Avec grand plaisir. Il est 7h36. Dans un instant, direction l'Argentine, je ne dirais pas la Pampa, son fantasque président, surnommé d'ailleurs le Trump de la Pampa, se félicite de résultats historiques. Faut-il le croire? La réponse de notre camarade François Langlais dans l'Anglico.
RTL Matin revient dans moins de 30 secondes.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers, mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL Matin.
7h36, l'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, incroyable, hein, l'expérience économique inédite de l'Argentine et de son président semble donner de premiers fruits. François, expliquez-nous.
C'est vrai, vous vous souvenez de celui qu'on appelait l'homme à la tronçonneuse, Javier Milei, un économiste élu président de l'Argentine il y a 4 mois, échevelé, désinhibé, brutal dans ses propos et ses jugements, il avait brandi devant les électeurs cet outil, la tronçonneuse, pour afficher sa détermination à couper les dépenses de l'État. À côté de lui et de ses outrances, Donald Trump semble un sacristain. Hein. C'est peu de dire qu'il est libéral, il est inspiré par l'économiste américain Milton Friedman, Friedrich Hayek, par la romancière Ayn Rand, qui est la turiféraire de la liberté individuelle et de la créativité de l'entrepreneur.
Bon alors, qu'a-t-il fait exactement? Qu'est-ce qui se passe en Argentine?
Bah, il a tronçonné. Dans un pays perclus par les dettes et les faillites, miné par une inflation de 250% à la monnaie fondante, la valeur du peso argentin a été divisée par 300 par rapport à l'euro en 20 ans. Les chantiers pour les infrastructures ont été sabrés à 80%. Son idée étant que si les projets sont viables, bon, les investisseurs privés se substitueront à l'État. Il a coupé les budgets de l'université de 70%. licencié des dizaines de milliers de fonctionnaires. Il a fait sauter l'encadrement des loyers, le plafonnement, et autorisé des contrats de location individuels,
oui,
sans aucune référence à la loi, avec liberté pour les parties de fixer toutes les clauses, y compris de payer en nature avec des kilos de viande.
C'est pas vrai. Et ça marche tout ça ?
Écoutez, il y a trois éléments encourageants. Un, pour la première fois depuis 2008, le budget de l'État est en excédent, 0,2% du PIB. Deux, l'hyperinflation est tombée à 13% en février.
Oui.
Bah, c'est vraiment un net ralentissement. Et trois, sur le marché locatif, c'est la révolution. L'offre de logements a augmenté de 170% à Buenos Aires, avec des prix qui ont même légèrement baissé dans certains quartiers. Alors, bon, tout n'est pas rose, hein. La croissance chute fortement, le nombre de pauvres très élevé a encore progressé.
Quel est l'objectif de cette politique, on va dire, si dure ?
Vous savez, c'est ce que les libéraux appellent la thérapie de choc. Ça a été pratiqué en Russie dans les années 90, ou par Thatcher, au Royaume-Uni, auparavant. Pas de transition. On supprime toutes les subventions. On réduit les allocations. On privatise. On dévalue massivement pour aider les exports en améliorant la compétitivité extérieure. Le tout crée bien sûr une dépression de la demande, hein, qui, dans le bon cas de figure, tue l'inflation. Et à partir de cette économie rétrécie, on a un socle plus solide qui permet le retour de la croissance grâce aux initiatives individuelles des citoyens et des entreprises qui ne dépendent plus de l'État.
Bon, est-ce que ça a une chance de marcher tout ça ?
Écoutez, il se livre une course de vitesse entre les premiers résultats, fragiles, mais visibles, et puis les effets dépressifs qui peuvent aliéner le soutien populaire. L'Argentine en est exactement là, au milieu du guet.
Bon, c'est transposable dans d'autres pays ?
Vous savez, cette thérapie de choc, ça ne peut marcher que dans des pays qui sont à bout, épuisés par la crise, parce que les sacrifices sociaux sont très élevés. C'est le cas de l'Argentine aujourd'hui, hein, et c'était le cas de la Russie après 60 ans de communisme, ou du Royaume-Uni des années 70, qui était épuisé par les grèves permanentes. La Grèce a aussi subi une politique du même genre,
oui,
après la crise financière, et c'est aujourd'hui l'une des stars de la croissance européenne. Pas de chance donc qu'Emmanuel Macron s'achète une tronçonneuse, il a déjà du mal à utiliser le ciseau à ongles.
Merci beaucoup François Langlais, vos chroniques sont à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL. Et je ne saurais trop vous recommander le podcast Focus, préparé par Aude Vernuccio, consacré donc au Trump de la Pampa, le président argentin Javier Milei, que vous retrouvez bien entendu sur notre site.
Et il est 7h40, dans un tout petit instant sur RTL, on va vous parler d'un phénomène nouveau et fascinant, l'apparition d'une nouvelle classe d'âge, les super centenaires. Ce sont ceux qui vivent au-delà de 110 ans, et oui, ils sont de plus en plus nombreux. Alors comment l'expliquer ? Quels sont les secrets ? Et surtout, peut-on espérer aller au-delà ? On en parle dans un tout petit instant avec le professeur Bernard Sablonnière. À tout de suite.
7h40.
Yves Calvi, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Quand vous avez un brick glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche, là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499€ au lieu de 599, soit 100€ de réduction. Décathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Vous ramène ta fraise, t'es mal embarqué. Hein.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. RTL Matin.
Il est 7h43, on s'arrête donc ce matin sur cette nouvelle classe d'âge, les fameux super centenaires, ceux qui dépassent les 110 ans. Et Amandine, vous recevez donc le professeur Bernard Sablonnière.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin depuis Lille, où vous êtes professeur de biologie moléculaire à l'université Lille 2, chercheur également à l'INSERM. Et vous avez publié « L'espoir d'une vie longue et bonne », c'est chez Odile Jacob. C'est donc l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui a publié ces chiffres. 39 personnes en 2022 sont mortes à plus de 110 ans. C'est du jamais vu, on est d'accord, ça reste très exceptionnel, mais l'INED parle d'une explosion spectaculaire.
Oui, alors effectivement, cette statistique concerne un nombre de personnes dans cette classe d'âge qui est relativement faible, hein, puisqu'il faut rappeler qu'on a 30 000 centenaires en France. On en a à peu près un millier au-dessus de 105 ans, mais on en a moins de 50 au-dessus de 110 ans. Donc on arrive à la limite de la longévité, qui est effectivement de l'ordre de 111-112 ans. Alors après, conjoncturel, pourquoi en 2022 un peu plus de décès? Bah, de toute façon, au-delà de 105 ans, le risque de décéder dans l'année est de 50%. Mais il peut y avoir des fluctuations, ça peut être 40%, 60%, etc.
Mais c'est super centenaire, donc plus de 110 ans, ça n'existait pas il y a encore 20 ans, on est d'accord?
Oui, alors effectivement, ça c'est tout à fait statistique, c'est-à-dire plus la population vieillit, c'est-à-dire on décède moins à un âge plus jeune, donc la longévité augmente. Donc plus vous avez de personnes qui vont dépasser 100 ans, plus vous avez une chance d'observer davantage de supercentenaires.
Parmi ces supercentenaires, ces 39 supercentenaires décédés en 2022, 38 femmes et un homme seulement, comment l'explique-t-on ?
Alors effectivement, plus on avance en âge, notamment chez les centenaires, hein, la statistique est claire, il y a 9 femmes pour un homme. Donc effectivement, si dans cette classe d'âge qui accède à cet âge-là, on est à peu près à 9 pour 10, c'est logique que le pourcentage se voit aussi dans les décès. Alors effectivement, la mortalité est plus élevée pendant la vie active chez les hommes que chez les femmes. Mmh. Surtout quand on regarde ces classes d'âge de gens qui sont nés au moment de la Première Guerre mondiale.
Et quand on regarde le profil de ces femmes qui dépassent les 110 ans, ce ne sont pas des femmes qui n'ont rien fait de leur vie. Hein. Souvent, ce sont des femmes qui ont eu des métiers durs, en plein air. Vous iriez jusqu'à dire que le travail, c'est ça le secret ou...
Oh, c'est plus difficile à dire. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Hein, bien sûr, les facteurs d'environnement, du style de vie, etc. Et puis, on en reparlera peut-être un peu plus tard aussi. Il y a aussi les facteurs, un certain nombre de facteurs génétiques qui jouent un rôle. Il y a des gens qui, bien sûr, ont des prédispositions génétiques à ne pas démarrer de maladies liées à l'âge arrivé à 60-70 ans et qui sont jamais malades. Donc, ils vont prolonger leur espérance de vie très longtemps.
Quand vous évoquez cette part de génétique, par exemple, si on a eu une grand-mère centenaire, on peut imaginer être super centenaire ?
Alors ça, c'est intéressant. Alors, la génétique contribue à peu près pour 25% pour la longévité exceptionnelle, alors que l'environnement contribue pour 75%. Mmh. Alors, illustrons ça avec effectivement les chercheurs qui ont observé, analysé les ancêtres de Jeanne Calment. Mmh. Et effectivement, elle avait des ancêtres qui avaient déjà une longévité bien supérieure à la moyenne par rapport à ses classes d'âge à ces années-là.
Jeanne Calment, qui a longtemps été doyenne de l'humanité, morte, je le rappelle, à 122 ans et 164 jours. Professeur, il y a un autre élément qui interpelle forcément dans cette enquête de l'INED, les super centenaires, donc une nouvelle fois je le rappelle, ce sont ceux qui ont plus de 110 ans, sont 8 fois plus nombreux en Guadeloupe et en Martinique qu'en France métropolitaine. Comment l'expliquez-vous ? C'est ce que vous disiez de l'environnement ?
Oui, alors là, vous parlez, enfin, dans l'article, il parle de la Guadeloupe et de la Martinique. Ce qui est intéressant, c'est de voir une étude plus importante au niveau mondial qui a été faite par un démographe belge qui s'appelait Michel Poulain et qui a observé dans le monde entier 5 zones qu'il a appelées des zones bleues. Alors, il y a l'île de la Sardaigne, notamment un village qui s'appelle Nuoro. Il y a la presqu'île de Loma Linda en Californie. Il y a une presqu'île au Costa Rica. Il y a l'île d'Icaria en Grèce. Et il y a la ville d'Okinawa au Japon. Et ce qu'il a remarqué, les particularités qui font qu'il y a beaucoup plus de centenaires ou de super centenaires dans ces régions-là, c'est que souvent, ce sont des îles montagneuses, assez isolées, où les gens ont une tradition alimentaire extrêmement saine, avec une vie sans pollution. La malbouffe américaine n'est pas arrivée dans ces régions. Ils font beaucoup de marches et d'exercices physiques. Et parfois, on peut observer aussi une certaine consanguinité qui va, si vous voulez, concentrer un certain nombre de facteurs génétiques qui leur permet de résister mieux aux maladies liées à l'âge.
De la consanguinité qui finalement est positive. C'est...
Oui, voilà, en quelque sorte.
C'est étonnant.
C'est-à-dire que ces gens-là concentrent davantage de variants génétiques qui leur permettent de mieux résister à l'apparition de maladies liées à l'âge.
Vous évoquiez l'alimentation, la malbouffe, vous qui êtes professeur de biologie moléculaire, ça reste quand même l'une des clés. On est d'accord ?
Ça reste bien sûr l'un des éléments. On le voit bien actuellement dans le monde avec l'épidémie d'obésité et l'épidémie de diabète. Hein, c'est de vraies épidémies. Donc, une alimentation saine et équilibrée, pas trop de sucre, pas trop de graisse. Et puis, on le sait, bien sûr, beaucoup de fibres. Et puis, avoir une alimentation bien équilibrée entre l'apport de protéines, notamment protéines animales et de fibres végétales, c'est évidemment capital pour éviter l'apparition de ces maladies liées à l'âge qui se répercutent, comme on le sait, les risques de cancer, les risques de maladies cardiovasculaires, voire les risques de maladies neurologiques.
Professeur, il y a une question que sans doute les auditeurs se posent en vous écoutant. Est-ce vraiment souhaitable de vivre si vieux ? Est-ce qu'on peut avoir 110 ans et se sentir bien ?
Il faut leur poser la question. Alors après, il y a une illustration intéressante. Il y a un chercheur qui avait posé la question, donc le facteur psychologique est important, en demandant à des personnes âgées de 90 ans si elles se sentaient heureuses ou pas. Et ceux qui répondaient « oui, je me sens heureuse », il y en a seulement 9% qui sont décédés 10 ans après. Et ceux qui prétendaient qu'elles se sentaient pas très heureuses dans leurs conditions de vie à 90 ans, eh bien, il y en a 30% qui étaient décédés 10 ans après.
Donc, si on se sent heureux vieux, on vivra encore plus vieux.
Oui, alors après, il faut aussi considérer que les centenaires sont ce qu'on appelle des chanceux. C'est-à-dire qu'à l'âge de 90 ans, 15% des gens n'ont jamais démarré une maladie liée à l'âge. Donc jamais de troubles cardiaques, jamais de troubles vasculaires, jamais de cancer, jamais de maladie pulmonaire et aucune maladie neurologique. Donc c'est des chanceux. Donc ils sont en bonne santé, ils peuvent quasiment mourir en bonne santé. C'est-à-dire ils n'ont rien du tout, ils sont très très bien. Et puis d'un seul coup, effectivement, le cœur va flancher, ça sera une insuffisance cardiaque très rapide qui va les entraîner le décès.
110 ans, on évoquait le cas de Jeanne Calment, 122 ans et 164 jours, bien sûr, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut imaginer aller au-delà de 110 ans ?
Alors, biologiquement, c'est difficile à imaginer parce qu'il n'y a pas de facteur biologique, il n'y a aucun gène qui va favoriser une longévité accrue. En fait, la longévité exceptionnelle chez l'homme s'explique par un phénomène un peu de chance, c'est-à-dire comme ils ne décèdent pas avant, ils ont une chance d'aller au-delà. Alors, de façon très intéressante, il y a un démographe hollandais qui a dit « c'est statistique ». C'est-à-dire, on regarde la courbe de Gauss s'élargit au niveau des extrêmes, et donc, lui, il a calculé que des personnes âgées de 70 ans, il y avait à peu près une chance sur un million de dépasser probablement l'âge de 120 ans. Donc pour lui, probablement, la personne qui va battre le record de Jeanne Calment est déjà en vie actuellement. Donc rendez-vous probablement en 2070 pour voir si elle dépasse l'âge de 120 ans.
2070, il y aura d'après les projections 200 000 centenaires en France, presque 7 fois plus qu'aujourd'hui. L'âge aujourd'hui, c'est 85,8 ans l'espérance de vie pour les femmes. 80 ans pour les hommes. On dit que les petites filles qui sont nées en 2022 peuvent espérer vivre jusqu'à 93 ans. 90 pour les petits garçons. Juste d'un mot, professeur, il va falloir s'en occuper de tout ça parce que j'imagine qu'à 100 ou 110 ans, on ne peut pas vivre tout seul.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux facteurs là-dedans. C'est la prévention, c'est-à-dire à 40, 50 ans, avoir développé une bonne médecine de prévention pour essayer de limiter l'apparition de maladies liées à l'âge. On le voit notamment, comme on l'a dit, avec les épidémies de diabète et d'obésité. Et le deuxième facteur, à un âge plus avancé, c'est comment prendre en charge la perte d'autonomie. Et ça fait beaucoup parler, évidemment, au niveau des conséquences sociétales actuellement en France.
Et ça, c'est sans doute aussi un sujet qu'il faut anticiper. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Bernard Sablonnière, d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Lille. C'était passionnant. Je vous remercie aussi. Antoine Decart, notre correspondant qui a permis la liaison technique.
Chacun fait ses choix. Moi, je retiens la capacité au bonheur et le fameux régime méditerranéen, une fois de plus, bien entendu, plébiscité.
Et vous... celui qui va battre Jeanne Calment, qui est peut-être déjà en vie.
Bah, exactement.
Sans doute, d'ailleurs.
Professeur Sablonnière, vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Lui aussi, c'est un spécialiste.
D'accord.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Oh non, il y a encore le chien des voisins qui fait pipi chez nous. Faut faire quelque chose là.
Bah, on va quand même pas clôturer tout le jardin, enfin.
Et pourquoi pas ?
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau Cisco à occultation complète à 27,30€ et en stock. C'est ça, un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Panneau de 180 cm de haut, 180 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Installation facile par emboîtement, voire conditions sur bricodépôt.fr.
Carrefour. Quand vous me dites « la 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume », oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Les saisons, c'est pas facile à suivre. Alors pour savoir si c'est le bon moment pour vos fruits et légumes, le plus simple, c'est de venir chez Biocoop. Si c'est en rayon, c'est que c'est la saison. Parce que consommer de saison, c'est respecter la nature. Chez Biocoop, vous ne trouverez que des fruits et légumes 100% bio et 100% de saison.
Et du 25 au 29 avril, les radis en bottes sont au prix engagé de 3€ le lot de 2.
Biocoop, du bon sens et rien d'autre.
Opération valable dans les magasins Biocoop participants. Les radis sont à 1,75€ la botte.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55. Philippe, le professeur Bernard Sablonnière nous a parlé ce matin de la révolution annoncée des super centenaires et nous serons de plus en plus nombreux donc à vivre au-delà de 110 ans.
Oui, c'est une forme de... Je ne sais pas pourquoi. J'attendais une musique, j'ai fait un AVC.
Oui,
j'attendais une musique parce qu'à l'habitude, je voyage, je mets une musique. Eh bien, c'est une formidable nouvelle que vous m'annoncez là. En apprenant ça, Nicolas de Taverneau, qui a pris sa retraite à 73 ans, vient de l'annuler. Il sera de retour aux affaires cet après-midi. Il me reste 50 ans à vivre, je ne vais pas me taper 50 ans de retraite. Et hop, ça dégage, David Laramendi. Il aura tenu 48 heures. Bonjour Bernard.
Oui.
Bernard, vous êtes professeur émérite de biologie moléculaire à la faculté de Lille. De toute façon, Bernard Sablonnière, c'est vraiment un nom de professeur de biologie moléculaire. Ah oui. Et je pense, moi, que le destin professionnel est souvent inscrit dans le patronyme. Bernard Sablonnière, même si son bouquin s'appelle « L'espoir d'une vie longue et bonne
oui. »,
Bernard Sablonnière, ça ne peut pas être un nom d'acteur porno.
Oh non ! Non, professeur, excusez-nous. Enfin.
Infirmière en chaleur avec Diana Vegas, Rebecca Titz et Bernard Sablonnier. Eh bien, ça ne marche pas, ça ne claque pas, ça ne sonne pas. Et d'ailleurs, j'observe que vous avez totalement omis Amandine et Bernard de parler de la sexualité des super centenaires, qui est assez calme, mais pleine d'avantages. Si Simone, 112 ans, te dit « Merde, j'ai oublié de prendre ma pilule !» Alex Vizorek lui répondra « Te fais pas de bile, mon poussin, j'ai une semence de mauvaise qualité, car il est gentleman, il prendra sur lui. »
Bon, en tout cas, c'est quand même une...
Comme Simone, d'ailleurs.
Bien entendu, une formidable nouvelle, cette multiplication des super centenaires en France.
Eh oui, déjà pour nos audiences, parce qu'ils ne sont pas sur Skyrock.
Non.
La France est donc le pays des papiers et mamies, le Disneyland des retraités, le parc Astérix, les couches confiance, le puits du fou des dentiers, l'Europa Park de Parkinson, le futuroscope de l'Alzheimer. Alors, le nom
de centenaires à quadrupler en 25 ans. Bon, comment ça s'explique ? Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux ? Non, on vient de vous le dire. Est-ce que c'est Alzheimer qui en est la cause ? Est-ce que ce sont juste des malades qui ont juste complètement oublié de mourir ? Avec le médecin qui passe dans la chambre qui dit « Gaston et Francine, là, 148 et 173 ans, il faut y aller à un moment donné, il faut me libérer la chambre. » Alors, j'ai lu l'article du Figaro, il y a le directeur de recherche de l'INSERM, Jean-Marie Robine, qui explique « La multiplication des centenaires s'explique par la diminution de la mortalité avant 100 ans. » Donc c'est parce que tu meurs pas avant 100 ans voilà. que tu vis après 100 ans. Ah oui, et ça c'est le directeur. Ah, eh ben bravo.
C'est logique quand même.
Merci, merci. 15 ans d'études pour arriver à ça.
Parlons chiffres. La France compte donc 31 000 centenaires et leur nombre pourrait s'élever à 200 000 en 2070.
Alors, dit comme ça, ça fait beaucoup. Oui. Mais c'est vrai qu'en 24 heures, c'est un chiffre qui peut diminuer de moitié. En plus, c'est vrai qu'il fait pas chaud. Un coup de froid, un coup de chaud, une promenade, une cacahuète avalée de travers. Et puis c'est le domino day, ça dégage, un petit virus, un courant d'air, et c'est l'annulation d'une émission de Cyril Ferraud, qui sont très sensibles, et c'est les boules de bowling face à nos seniors qui se barrent. Alors, je le redis, les super centenaires, ce sont des personnes ayant dépassé les 110 ans, c'est pas des centenaires avec une tunique bleue et un slip rouge au-dessus du pantalon, déjà parce qu'à 110 ans, c'est le seul moyen de garder un slip propre, c'est de le mettre au-dessus, et puis... Super centenaire, c'est un pitch trop fragile pour faire un Marvel. Dans Gotham City, il y aurait des gens qui disent « Oh, putain, il pleut !» C'est encore Louis Bonin qui s'est gouré sur la météo. Ouais. « Non, regarde, c'est Super Centenaire qui vole au-dessus de nous et qui a une fuite urinaire oh. Coucou, Super Centenaire !»
Le principal syndicat de contrôleurs aériens, alors on change de thème absolument, a finalement levé son préavis de grève, mais de nombreux vols restent totalement annulés, ça va être un jeudi noir.
Oui. Rappelle tous la compagnie créole. Foutu canicule. Alors c'est un jeudi noir pour les passagers, c'est un jeudi noir aussi pour Al-Qaïda et Daesh, car les contrôleurs aériens prennent en otage nos amis terroristes. Alors à l'approche d'Idio, le gouvernement, vous avez vu, il est super à l'écoute avec la SNCF, les contrôleurs du SEL. Ouais, ils ont trouvé un accord, c'est zéro résistance. On dirait Jonathan Daval à son arrivée à la prison avec ses colocataires, qui dit « Bon, je vous ai mis un petit pyjama en soie sauvage un peu large, j'ai viré l'élastique, je me